Le 16 décembre, à Vennes, au Quai des Arts, vous pourrez assister au concert de deux fleurons de la scène reggae marseillaise, Raspigaou et Joe Corbeau et le Trident. Ils seront également accompagnés de Sika et Léji, deux des lauréats du tremplin Classe Rock 2023. À cette occasion, nous avons reçu Patrick Daragi, alias Garage, cofondateur de l'association Exquis, ainsi que du tremplin Classe Rock et co-organisateur de la date. Il nous présente l'association Exquis, le tremplin et le plateau qui se tiendra ce samedi. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Exquis ?
Alors l'association Exquis est née en 1989. Si on fait l'historique, et ça part d'un constat tout simple, c'est on est 3-4 musicos, s'il ne se passe rien dans notre ville, on s'est dit tiens, nous on va faire mieux que les autres. Et bien sûr, on se trompe puisqu'on ne fait pas mieux que les autres et on fait des erreurs, bon, en fait, comme toute aventure collective en commun. Très vite, on démarre une action dès 91 qui s'appelle Classe Rock dans un premier temps, donc destinée aux plus jeunes musiciens, collégiens, jeunes en apprentissage, lycéens, étudiants. Action qui a pour objectif d'être un peu un modèle pédagogique autour de l'apprentissage musical et surtout de valoriser l'engagement collectif chez les jeunes, puisque très souvent, on stigmatise la jeunesse dans ce qu'elle a de plus négatif et très peu de ce qu'elle a de positif. Donc nous, on a décidé de prendre le contre-pied et surtout de se dire que le moment de jouer ensemble, c'était la première expérience démocratique des jeunes, c'est créer un groupe. Ou c'est valable dans le sport aussi, dans une équipe, il faut s'entendre, s'entraider, etc. Discuter, négocier, bref, faire des efforts pour vivre ensemble. Quoi. Tout ça nous a mené à monter petit à petit empiriquement le Class Rock. Et puis finalement, d'Aix, c'est parti sur 3 autres villes du département 13. Et puis en 96, on démarre une incursion dans le 84 à Cavaillon pour arriver en 2000 à couvrir l'ensemble des 6 départements de la région PACA, 04, 05, 06, 13, 83, 84. Et d'ailleurs, dans le 05, on est arrivé à partir de 98. Donc pour continuer sur l'assaut, au-delà du Class Rock, on a créé aussi beaucoup d'échanges internationaux. À partir de 2004, ça s'est transformé en Class E-Rock parce qu'il y avait beaucoup de départs. Et puis finalement, on a créé des réseaux avec d'autres assauts sur d'autres pays. Donc on a créé une première asso qui s'appelle Stage Europe Network avec 6 pays. Et là, on a intégré il y a 4 ans maintenant un autre réseau qui s'appelle Eurogigs, qui est plus sur les facs musicologie dans différents pays. Le propos est toujours le même, c'est-à-dire faire se rencontrer des jeunes grâce à la musique, quelle que soit leur provenance sociale, ethnique ou tout simplement les pays d'où ils proviennent, ça c'est différent.
Pour nos auditeurs et auditrices qui passeraient en pays aixois, il faut aussi préciser qu'il y a un lieu associé au projet Exquis, qui est les Arcades. Comment s'articule la vie de ce lieu? Quelles sont ses activités?
Alors, il y a d'autres activités, effectivement, notamment ce lieu-là qu'on a récupéré il y a 4 ans maintenant. C'est un resto, tout simplement, hein, dans lequel on faisait des concerts depuis des années. Comme le propriétaire voulait partir, on a dit qu'on l'a rejeté. Donc on a fait un emprunt et sur ce, il y a le Covid qui est arrivé. Donc on a fait un très bon mauvais choix d'investissement. Et donc c'est un resto de midi classique. Et le soir, une fois par semaine, il y a des concerts. Donc ça peut être beaucoup de pratiques amateurs puisque nous on est penchés là-dessus. Mais ça peut être aussi des petites têtes d'affiche, voire très grosses puisqu'on a reçu le chanteur des Winkles, on a reçu les Ramoneurs de Menhir, on a reçu The Prize, le groupe de Christophe Godin, on a reçu Soumti, donc il y a eu plein d'artistes qui sont passés, Imhotep de Ayam, Corbeau bien sûr, Raspigaou, etc. Et plus, bon c'est vraiment un tout petit lieu, hein, c'est pour 120 personnes en gros. Donc ce lieu-là, ben, c'est juste en dessous de nos bureaux. Sinon, dans les autres activités, on a créé il y a 6 ans un nouveau concept qui s'appelle le Class Vioc, en opposition avec le Class Rock, où là les jeunes sont jugés par des plus vieux. Là, c'est le contraire, c'est les plus jeunes qui jugent les plus vieux. Donc, ça nous a amené surtout à pointer le fait qu'il y a beaucoup de musiciens, il y a très peu d'endroits où jouer, et qu'en fait, il y a un vrai savoir-faire, une vraie artistiquement une patte qui n'est pas du tout mise en valeur. Donc, nous, une fois par an, on fait ce projet-là où on rigole bien, et en plus, c'est très sympa. Ensuite, on a aussi d'autres opérations type TPA, des festivals, des tournées, etc. Et justement, il y a une tournée qui passe pas loin de chez vous. Samedi 16 décembre, c'est la première fois depuis très longtemps, en tout cas, qu'on n'a pas travaillé avec la ville de Vennes. Et là, ils nous ont proposé de faire un partenariat. Donc ça va être au Quai des Arts, donc avec toute l'équipe du Quai des Arts, aussi la Comcom du Buech. Avec ces 3 partenaires-là, plus nous, on a décidé d'organiser un concert, donc Raspigaou, Joe Corbeau. Et bien sûr, toujours en première partie, on met toujours les amateurs. Donc là, c'est Sika et Léji, un des lauréats 2023 de Classe Rock.
Vous disiez, vous êtes co-organisateur du plateau Classe Rock qui se tiendra à Vennes au Quai des Arts le 16 décembre prochain. Est-ce que vous pouvez nous présenter les artistes qui sont sur scène ce soir-là? Pourquoi avoir fait les choix de Raspigaou, Joe Corbeau et le Trident, ainsi que Sika et Léji qui seront en première partie?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la première opération qu'on mène avec la ville et on voulait avoir un plateau identifiable. Là, c'est vraiment tout le reggae marseillais qui déboule. Il se trouve que c'est le week-end d'ouverture ou pas loin de la station du Dévolu derrière. Donc, on se disait, c'était une bonne idée. Et surtout, il fallait qu'on soit rapide pour monter cette histoire. On a décidé de partir dans la simplicité et surtout, on adore Raspigao et Joe Corbeau qu'on a fait jouer avec l'assaut des dizaines de fois. Sachant que Corbeau, c'est un peu quand même une espèce de monument à Marseille et un monument de la poésie, de la dub poésie et aussi du reggae dans le sud de la France. C'est un peu le vétéran dans ce domaine-là. Il y en a qui en ont en Jamaïque, nous on en a à Marseille, on s'est dit que c'était intéressant. Et Sikaïlogie, pourquoi ? Parce qu'on essaie de proposer à chacun des groupes, en fin de cursus de classe rock, une ou deux expériences en mini-tournée ou en mini-délocalisée, on va dire. Donc il se trouve que Sikaïlogie, on les a fait jouer en première partie de La Petite Fumée fin septembre. Pour être équitable, il leur manquait un concert, donc c'est celui-là. Et de plus, il y a des groupes, tu sais, dans le classe rock qui partent en Europe. Pour ceux qui ne partent pas, on essaie de leur donner plus d'expérience en concert.
Et pourquoi un plateau 100% marseillais ?
Je sais pas, ça donnait une couleur plus facile à capter. Comme la station ouvre, il y a beaucoup de Marseillais qui vont monter. Je pense que ça les aidera à capter le truc. On tenait pas à faire absolument un plateau 100% marseillais. Mais bon, si tu dissèques bien les éléments de Raspiga aujourd'hui et les éléments du Trident, on est plus sur Port de Bouc, Martigues... Et Marseille, bien sûr, que uniquement Marseille.
Donc on rappelle, le concert se déroulera donc le 16 décembre au Quai des Arts, avenue des Martyrs à Vennes à partir de 20h. Donc les préventes, elles sont disponibles en ligne sur Digitik. Vous pourrez également acheter vos billets sur place le jour du concert. Et vous pourrez retrouver toutes les infos sur le site de l'association Exki, donc www.exki.fr. Nous allons maintenant faire une pause musicale avec un des titres phares du groupe Raspigao. Il est extrait de l'album Showtime sorti en 1999 et il s'intitule Vitrolles.
Un connu mal, un connu mal, un connu mal, un connu mal. ancienne et toujours on l'excuse. Jusque chez les Allemands, ses propos incohérents sur l'inégalité des races ont fait là une, c'est décevant. Elle ne sait plus quoi dire ni quoi faire de ses 10 doigts. Elle veut changer le nom de Vitrolle, il ne manquait plus que ça. On n'a qu'à l'appeler Paride, où l'Union ça serait nous. Construire une belle autoroute qui passerait en plein milieu. Ou un gros aéroport, ça ne ferait pas de tort au tourisme de la ville qu'elle a déjà rendu presque mort. Mais Catherine, ma fille, où tu poses tes fesses sur toutes les chaises, les doigts des Marseillais se pressent. Ne rends-tu pas venir la fin de ton mandat? Si tu ne le sens pas par la force, tu partiras. Oudjep, j'en appelle à la banderole. Oudjep, manifesté, on nous a voulu Vitrolle. Oudjep, j'en appelle à la banderole. Oudjep, manifesté, on nous a volé Vitrolle.
Nous allons revenir sur le tremplin Classe Rock dont nous parlions tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce dispositif ? Vous nous avez un petit peu raconté comment il était né et qu'est-ce qui vous a motivé à le créer ?
Ben, je pense que c'est un peu l'histoire qu'on n'a pas eue et qu'on aurait bien aimé avoir. Je pense que c'est un genre d'outil idéal à l'usage des jeunes musiciens, idéalisé peut-être un peu aussi. C'est-à-dire, finalement, on ne se pose pas la question de savoir combien coûte un stade où on fait s'entraîner une équipe de foot. Par contre, on ne se pose jamais la question de savoir comment les groupes peuvent répéter dans de bonnes conditions, les locaux de répétition compliqués. Donc, on ne demande pas aux footballeurs d'aller s'entraîner sur l'autoroute. On leur file un stade. Donc, en fait, nous, on a voulu créer un espèce de cadre autour des premiers pas des musiciens et des musiciennes, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de filles, dans leur apprentissage, leur appréhension des premières expériences autour de finalement valoriser un groupe. C'est quoi un groupe, en fait ? Comment ça fonctionne ? Quels sont les métiers qui encadrent la scène ? Quels sont les éléments techniques qu'il faut amener dans un premier temps, une feuille de patch, à quoi ça sert ? Pourquoi on fait des balances ? Pourquoi on se dispose comme ça ? Pourquoi on doit tenir le micro d'une certaine manière, etc. C'est vraiment avant la première marche, le B.A.B.A., l'ABCDR du parfait musicien.
Les jeunes sont le public visé par ce tremplin, plutôt dès quel âge ? Dès le collège, dès le lycée ?
En fait, on a une limite d'âge supérieure. Pas de musiciens de plus de 24 ans, mais on n'a pas de limite d'âge inférieur. Ce qui nous a conduit à avoir des gens qui sont présentés très jeunes, hein, genre 10-11 ans, et à sélectionner le plus jeune lauréat, parce que chez nous, il n'y a pas de gagnant dans Classe Rock, il n'y a que des lauréats, d'accord ? Donc en fait, à la fin du cycle, mais bon, j'expliquerai un peu, il y a 8 groupes qui sont retenus, et ces 8 groupes traversent la même expérience. Donc le plus jeune lauréat qu'on a gardé, c'était un batteur qui s'appelait Louis, dans un groupe qui s'appelait The Watts, et qui était du côté de Rognac, il avait 12 ans. Et il peut côtoyer des gens qui ont jusqu'à 24 ans donc, mais qui ont la même passion. Le lien entre tous ces musiciens qu'on mélange à certains moments dans le cursus Classe Rock, c'est vraiment l'amour de cette passion pour la musique. Donc c'est pour ça que je disais valoriser l'expérience collective des jeunes, ça peut se faire au travers de plein de choses. Moi j'ai toujours dit macramé ou rock'n'roll, c'est pareil. C'est juste avoir une passion commune et du coup découvrir aussi les points communs. Les différences, on les voit très vite entre les gens. Il suffit de s'observer 5 minutes. Par contre, les points communs, c'est plus compliqué. Ah, toi, tu rencontres le même problème que moi rythmiquement. Ah, ben tiens, mais comment tu as réussi à le résoudre ? Ça peut être du musical, mais ça peut être aussi de l'informatif. On fait venir des journalistes pendant notre stage de Classe Rock. On fait venir des éditeurs, des tourneurs, des ingénieurs du son, des mixeurs, des gens qui font du mastering. Il y a des tas de métiers qui tournent autour de ça. Ça peut soit permettre aux jeunes de se faire une idée plus précise de ce qu'ils veulent faire, mais soit tout simplement les informer, en faire des gens plus complets, quoi. Ne serait-ce pas ça, finalement, la culture, l'intérêt de la culture. C'est pas forcément faire des pros en peinture ou en théâtre. C'est simplement faire des gens plus curieux, plus aptes aussi de découvrir les finesses qu'il y a chez la passion de l'autre. Et c'est vraiment ce brassage ce mélange intergénérationnel, ça c'est super important, c'est-à-dire, nous on s'occupe de jeunes bien sûr, mais la barrière entre un mec qui a 60 ans et qui joue du rock'n'roll et d'un gamin de 12 ans qui joue du rock'n'roll, elle n'existe pas. Justement parce qu'il y a cette passion commune. Au lieu de séparer les gens, encore une fois avec leurs différences, on peut trouver les points communs qu'ils ont et donc faire des choses ensemble. C'est une société en fait.
Quelles sont les conditions d'admission pour ce tremplin? Quel type de projet on peut soumettre? Est-ce que c'est très ouvert ou est-ce qu'il y a des critères assez particuliers?
Alors déjà, il faut être plus d'un. À partir de deux, on est un groupe. Deuxièmement, pas avoir plus de 24 ans. Troisièmement, faire des compositions, place à la créativité de la jeunesse. Troisième point, faire partie de la région PACA, d'un des six départements. Voilà, c'est les seuls critères qu'il y a.
Et comment se déroulent les sélections? De qui est composé le jury?
Les sélections, comment ça se passe? On a lancé l'appel à candidature donc début novembre. Ça va nous amener, les groupes peuvent s'inscrire jusqu'au 7 janvier par l'intermédiaire du site internet, enfin c'est très simple. À partir du 15 janvier, on fait la réunion d'un jury. Ce jury est composé de musiciens, d'arrangeurs, de gens qui travaillent dans la musique, mais aussi de gens de l'association qui sont fans de musique. Et comme je dis toujours, on ne prend pas forcément les meilleurs groupes. Nous, on ne cherche pas forcément le groupe qui joue super, etc. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui est capable de faire avec une mauvaise carte son et un bon logiciel, un editing parfait avec un truc qui tourne nickel. Nous, ce qu'on regarde, c'est un peu comment le groupe se définit, d'où ils viennent, etc. Ça, c'est le premier filtre. Sur la centaine de groupes qui se présentent chaque année, on en garde 30. Ces 30-là, on va aller entre février et début mars les voir en live chez eux. Donc dans chaque département, on fait une sélection live, voire deux quand il y a trop de groupes. Et à l'issue de ça, on sort nos 8 lauréats. Ces lauréats-là, on les connaît donc en mars. Et la première rencontre qu'on fait dans la foulée, c'est le stage. Le stage, donc ça c'est vraiment un gros morceau. On met tous les groupes ensemble dans un lieu qui s'appelle le Fontenil à Ristolas. C'est un village où il y a 70 personnes. On arrive, on est 70, on a doublé la population du village. On en profite pour travailler tout ce qui est autour de la musique, mais aussi se confronter au live, puisque tous les deux soirs, il y a soit une jam session, soit un jeu autour de la musique ou de la pratique musicale, soit un mini showcase, soit on accueille un groupe connu.
Quel type d'accompagnement proposez-vous aux artistes lauréats de Classe Rock? Est-ce qu'il y a des partenariats de programmation avec les structures des différents territoires de la région?
Alors, au niveau du calendrier, quand on est sorti de ce stage, on a plusieurs objectifs. Pour nous, autre que la musique, c'est voir comment les groupes peuvent se situer en collectif. Est-ce qu'ils sont trop timides pour qu'on les envoie dans un endroit où ils vont devoir côtoyer trop de gens? On essaie de jauger ça et on les prépare aux grosses scènes. La première grosse scène qu'on a, c'est le 21 juin, à Aix-en-Provence, genre sur le Courmirabeau, c'est les Champs-Élysées du coin. Et on a une énorme scène, enfin une bonne scène, quoi, plusieurs milliers de personnes devant, donc ça permet d'avoir une première expérience d'une grosse scène. Et c'est pas rien, parce que les groupes, souvent, ils ont un an d'existence, ils ont fait 2-3 concerts, mais c'est tout. Donc, pendant le stage, on les habitue à faire quelques showcases sur un petit kit. On les a déjà vus en présélection live, où là aussi, je l'ai pas dit, mais on essaie de faire passer, chaque fois qu'on rencontre les jeunes, on essaie de faire passer le maximum de notions. Un plan de scène, tu n'en as jamais fait, on va le faire ensemble. On explique toute la décomposition de la balance pour que ça soit profitable pour tous et surtout pour que les jeunes musiciens montent sur scène et soient encadrés. Il y a déjà du stress. Mais en plus, il ne faut pas qu'il y ait un autre stress dû à on est perdu, on ne sait pas ce qu'on fait, à quelle heure, où c'est que ça démarre, où c'est que j'appuie, où c'est que ça... Tout ça, on essaie de cadrer. Donc, première expérience de grosse scène, 21 juin. Et à partir de ce moment-là, dès qu'on a passé le final, on n'appelle plus la finale parce qu'avant, on devait sélectionner encore des groupes, mais là, on garde les 8. Donc, c'est le final. Et à partir de ce moment-là, ça déclenche la dernière partie qui est les exports à l'étranger, Pays-Bas, Allemagne, Écosse, les accords de coopération qu'on a avec les différents festivals, notamment dans le 05 avec, par exemple, Tradine. L'association Kaya accueille en ouverture de ses journées chaque année au moins un groupe de Classe Rock. Les accords de partenariat et ensuite la dernière partie, c'est les tournées Classe Rock. Cette année, c'était un petit peu particulier, mais en général, on essaye de faire vivre aussi le rebondissement de date par date. Quand il y a deux dates, c'est déjà une autre façon de gérer son stress. Il faut gérer le sommeil aussi. Quand il y a trois jours, c'est encore autre chose. Donc, il faut régler des problèmes techniques, des problèmes d'organisation basique, régie, quoi. Mais aussi des problèmes, gérer son corps. Tout ça, toutes ces expériences cumulées, etc., ça constitue l'année Classe Rock.
Donc, c'est un dispositif très complet, effectivement. Est-ce qu'il y a des artistes qui ont émergé par ce dispositif, qui ont aujourd'hui une carrière d'envergure nationale ou internationale?
C'est pas du tout notre objectif. On n'est pas là pour faire des singes savants. Mais néanmoins, On a raté notre coup parce qu'il y en a quelques-uns qui sont connus, quoi, on va dire. Ben, il y a plein de musiciens qui sont passés par Class Rock qui sont connus à titre personnel. Hein. Mais il y a aussi des groupes qui existent encore, genre Deluxe, ils ont fait Class Rock, Dagoba, iPhone, ils n'ont pas été sélectionnés. Mais ils n'ont pas été sélectionnés parce que la pianiste passait pendant le stage un concours de piano. Il y a eu des groupes comme ça, Soma, des groupes qui ont vraiment eu une carrière, quoi. Et puis à titre personnel, plein de musiques scosses que tu retrouves à droite à gauche. Il y avait le guitariste de Thomas Dutronc qu'on a connu dans Class Rock. Il y a aussi Cyril Achard, un guitariste très connu dans le classique. Raphaël Imbert, le directeur du conservatoire de Marseille, c'est un gars qui a fait Class Rock. Bon, après, c'est pas ni à cause de nous, ni grâce à nous, tout ça. Mais ça fait partie du cursus. D'ailleurs, à Gap, il y a une asso qui travaille beaucoup sur l'accompagnement des groupes aussi, qui s'appelle Impulse, qui a été longtemps notre relais dans le 05. Et il y a un des profs et quelques-unes des personnes qui tiennent la maison, qui ont fait Class Rock aussi. Mais enfin, en tout cas, ça fait partie du kit main libre du Musicos du Sud, quoi, tu vois.
Et vous parliez là tout à l'heure du 21 juin, de ce grand final sur le cours Mirabeau. Il y a chaque année un parrain ou une marraine qui va venir soutenir les jeunes groupes qui vont se produire. Est-ce que vous savez déjà qui sera le parrain ou la marraine de 2024? Est-ce que vous pouvez déjà nous le dire?
Je peux pas le dire, tout simplement. C'est pas de la fausse coquetterie ou tout simplement, je sais pas. Je sais pas parce que c'est rare qu'on ait aussi longtemps à l'avance le nom du parrain, mais c'est vrai que c'est arrivé. Bon, enfin, dans les parrains connus, on en a fait 35, hein, donc ça part de Tonton David, Gojira, Les Têtes Raides, tu vois, Gojira aujourd'hui qui tourne dans le monde entier et dans les places en 30 balles, nous on l'a fait à 6 euros, je crois, à Aix-en-Provence. C'est important pour les jeunes musiciens d'avoir quelqu'un de connu, de reconnu en tout cas, aussi pour la proximité d'un professionnel. Parce que nous, tous les gens qu'on leur présente, c'est sur le mode coaching, technique vocale, technique réglage d'instruments, etc. Sur la même scène qu'eux, dans les mêmes conditions, il y a un groupe professionnel qui passe. Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'ils peuvent remarquer? Ils peuvent tchatcher avec eux, discuter s'ils ont envie, etc. Il y a des gens qui sont super ouverts, il y en a qui sont moins. Tu vois, Pogo Car Crash, par exemple, sont super ouverts avec les gamins, quoi. Donc ça passe nickel. Les Ramoneurs, laisse tomber, ils sont plus gamins, eux, à 55 ans que les gamins. Donc ça, c'est super intéressant aussi. C'est une facette intéressante pour le groupe. Je pense qu'aussi, nous, c'est un outil pédagogique pour plein d'aspects. Pour l'aspect exercice, bien sûr, je monte sur scène, comment ça se passe, il faut que je trouve un peu mon repère. Mais aussi pour tout ce qui entoure... des gens qui n'ont pas forcément trouvé leur équilibre dans la vie. Donc ça peut aussi dire, ben, finalement, chaque maillon est important, je peux aussi m'insérer dans cette chaîne-là, etc. Donc le concert est une façon de mettre ces conditions en place pour une expérience humaine.
Est-ce que vous avez parfois des actions aussi directement dans les établissements scolaires?
Ça arrive, je ne peux pas te citer une action à proprement parler, mais pendant des années, on a fait ça, y compris sur le 05, dans les collèges, autour d'actions de sensibilisation. On a monté longtemps une action qui s'appelait 50 ans de musique en 50 minutes. En fait, c'était un peu le parallèle entre évolution technologique, évolution stylistique. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive, par exemple, au sampling, au hip-hop? C'est parce qu'on a créé le sampling. Et aussi lié au risque auditif. Mais là aussi, c'est de l'information qui peut ouvrir des portes aux jeunes. Sur les lycées et collèges, c'est intéressant. Par exemple, il y a des gens qui n'ont jamais vu une batterie. Si, en photo, à la télé, ou je sais pas quoi, ou sur Internet. Mais quelqu'un à côté de toi, à 2 mètres, qui met un coup de caisse claire à 115 dB, c'est physique, quoi. Donc, c'était ce champ d'expérience. On a été surpris dans certains quartiers à Marseille, mais même ici dans le 05. Ça permet aux gens d'accéder à quelque chose de différent, finalement.
On va maintenant écouter un second morceau. Il est dénommé « Rebelle du soleil ». C'est un des morceaux emblématiques de Joe Corbeau. Et il est issu de l'album « Roi des rois », paru en 1996. We'll be right back.
non, jamais, 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 jamais.
D'écouter Joe Corbeau et le morceau Rebelle de Soleil, nous sommes de retour en studio avec Patrick Daradji, directeur de l'association Exquis et fondateur du tremplin Classe Rock. On est actuellement dans un contexte assez compliqué pour les scènes. Il y a certaines salles qui sont en difficulté. Pensez-vous que des dispositifs comme Classe Rock peuvent contribuer à redynamiser l'activité du secteur et à visibiliser des artistes sur des territoires notamment ruraux ?
Ce qu'on remarque, en tout cas à la suite du Covid, et d'ailleurs il y a eu une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui était assez intéressante là-dessus, c'est qu'il y a eu un changement des pratiques. On remarque que les gros événements, type 40 000 personnes, Delta Festival, ce genre de truc, prennent plus 40%. Les jauges au-dessus de 3 000 prennent plus 40%. Tout ce qui est en dessous, ça diminue de autant. Donc effectivement, il y a un gros problème. Maintenant, est-ce que nous, on peut y faire quelque chose ? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est montrer aux gens, au public. Nous, on est d'accord qu'on est, encore une fois, c'est avant la première marche, c'est vraiment la première expérience. Donc, tu as tous les potes de classe, tous les collègues, la famille qui est là. Donc, c'est vraiment le cercle rapproché, qu'on va dire. Mais multiplié par le nombre de groupes, ça finit par faire des gens. Donc, en fait, c'est pas forcément des gens qui ont déjà assisté à des concerts. Donc, le sens de la vulgarisation, c'est important aussi pour ça. Finalement, les habitudes culturelles des gens, elles se créent par rapport à une combinaison de plein de facteurs qui sont super durs à évaluer. C'est pour ça que je dis, nous, tout seuls, on sert à rien. Et d'ailleurs, ça servira à rien qu'on fasse un Classe Rock super luxe, tout ça, s'il y a un terrain qui est complètement désert autour. Le sens de toutes ces actions mises bout à bout, c'est un maillage du territoire parfaitement abordable pour n'importe quelle personne, qu'il habite Marseille centre ou qu'il habite au fin fond du trou du cul du 05 ou du... parce qu'on parle du 05. Mais ça s'appelle l'aménagement du territoire. Donc en fait, la réalité, c'est est-ce que tout le monde a les outils ou les événements ou les actions à portée de main pour bénéficier de ça ? Alors là, la réponse, je ne l'ai pas. À mon avis, c'est non.
Et pour terminer sur une note un peu plus légère, quelques questions pratiques avant qu'on se quitte. Les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2024, on le disait tout à l'heure. Jusqu'à quand peut-on s'y inscrire ?
Le 7 janvier, on peut faire acte de candidature. Je pense qu'il y aura quelques jours de rab, mais c'est pas sûr.
Et la participation, elle est bien sûr gratuite ?
Les groupes payent rien, sauf quand on fait la semaine de stage, on demande 50 € pour la semaine, correspond à peu près à une journée de pension complète dans le lieu, et à nous de trouver le financement pour le reste. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le revirement institutionnel du soutien à toutes les pratiques, notamment les pratiques culturelles des jeunes, est vraiment très compliqué. Par exemple, sur les 6 dernières années, il y a 50% en moins de la région sur notre action. Et voilà, il y a des choix qui font qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de mener des actions comme ça. Enfin, on a l'impression que les assos, elles tiennent un peu à elles seules une grosse partie de la paix sociale. Il faudrait quand même que les institutions se réveillent un peu à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des... On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des institutions, des villes qui suivent, mais ce n'est pas la majorité, c'est dommage.
D'où aussi l'intérêt de se mettre en réseau et de coopérer entre structures.
Mais de toute façon, la survie associative impose le fédéralisme et l'entraide. Ça, c'est la règle de survie. Mais néanmoins, si tu fais ça en plus des moyens que tu as, ça donne une cohésion et puis une qualité de travail, hein, c'est sûr. Mais enfin, quand tu n'as que ça, ça devient... ça fragilise tout le secteur. Ce que je dirais aussi, si on veut rester dans ce domaine-là, c'est que... Puisque ça fait 35 ans, moi, je commence à avoir un recul. Et je trouve qu'il y a une fragilisation permanente, une surfragilisation du secteur associatif qui est dangereuse pour la suite. C'est la garantie du vivre ensemble, le secteur associatif, il me semble. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a l'école et tout ça, c'est très important. Et il faut soutenir, bien sûr. C'est pas que des mots, quoi. C'est vraiment un vrai échange, quoi. Et cet échange-là, il peut pas être simplement dicté par Twitter et Facebook, c'est pas possible. À coup de sponsor, machin, c'est pas possible. Donc, malheureusement, j'ai pas l'impression que les institutions soient conscientes de cette accélération. Et c'est bien dommage.